Bonjour, et si c'était foutu? Depuis quelque temps, il semble que la musique de fond médiatique ait changé à propos de la catastrophe climatique, alors qu'il y a quelques mois encore, on entendait dire que c'était grave, très grave, mais que la situation était sauvable au prix d'énormes efforts collectifs et individuels. On entend de plus en plus la petite musique nous y disant que non, en fait, c'est vraiment foutu. La catastrophe, on ne peut plus l'éviter et il faut se préparer à l'après. Alors, le « c'est foutu » est-il une dramatisation médiatique? Paradoxalement, les messages d'acceptation de la défaite ne peuvent-ils pas être plus mobilisateurs que les appels à l'effort? Et à propos, si c'est foutu, c'est la faute à qui? Toutes ces questions seront celles de cette émission d'aujourd'hui. Juliette, avec trois invités.
Cécile Duflo, vous êtes directrice générale d'Oxfam France. Vous avez été notamment secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Et Oxfam fait partie des quatre organisations qui ont lancé l'affaire du siècle, la plainte déposée contre l'État pour une action climatique. Une plainte qui a été soutenue par 2 millions de signataires d'une pétition que vous aviez lancée à la fin de l'année dernière. Sébastien Boller, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, chroniqueur pour La Tête au Carré sur France Inter, pour 28 minutes sur Arte, et vous avez également été chroniqueur pour Arrêt sur Image. Vous venez de publier aux éditions Lafon Le Bug Humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Et Alice Desbiol, vous êtes médecin spécialisée en santé publique et santé environnementale. Vous avez publié en janvier dernier une tribune dans La Croix sur la solastalgie, qu'on appelle aujourd'hui beaucoup l'éco-anxiété. Et depuis, vous en avez parlé dans plusieurs articles et même dans un complément d'enquête consacré à la collapsologie, pardon, qui a été diffusée le 20 juin dernier.
Et alors, on va commencer cette émission par une séquence toute récente, puisqu'elle est du 20h de TF1 d'hier soir. Une séquence qui ne va sans doute pas rassurer tous ceux qui pensent que c'est foutu.
Voilà, vous l'aurez peut-être remarqué, c'était la canicule cette semaine. Et avec les températures qui ont grimpé jusqu'à s'approcher, voire dépasser les 40 degrés, une vidéo datant de 2014 est ressortie. C'est un faux bulletin météo de TF1 censé se passer en 2050. Et ce jeudi 27 juin, le JT de TF1 a repassé cette vidéo et le présentateur Gilles Boulot en expliquait le contexte.
On parle beaucoup depuis quelques jours d'un bulletin météo que vous aviez fait, c'était il y a 5 ans, en décembre 2014. En vous appuyant sur des travaux très sérieux d'experts et de climatologues, vous aviez présenté les températures fictives du mois d'août 2050. Regardons tout d'abord un extrait de ce bulletin météo. J'ai ensuite une question précise à vous poser.
Dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes.
On ne va pas se mentir, c'est très troublant. Hein. Les températures réelles constatées aujourd'hui ressemblent beaucoup, beaucoup à ce que vous nous annonciez fictivement il y a 4 ans.
Non seulement, Gilles, elle en ressent, mais parfois elle les dépasse. Parce que, par exemple, sur cette carte de 2050, Clermont-Ferrand était à 40 degrés. Hier, on a battu un record absolu pour Clermont avec 41 degrés.
Alors voilà, sur les leçons qu'il faut tirer de effectivement cette anticipation de TF1 qui avait l'air tout à fait maximaliste et qui en fait a été rattrapée par la réalité, je pense que tout le monde va être d'accord, c'est-à-dire que apparemment les désordres climatiques sont hors de contrôle et hors de prévision, on ne va pas épiloguer là-dessus. Est-ce que ce genre de choses, c'est-à-dire le fait que maintenant même les chiffres les plus alarmistes paraissent dépassés par le réel, est-ce que pour vous c'est de nature à augmenter ces phénomènes de déco-anxiété ou de solastalgie que vous étudiez?
J'ai l'impression, et en tout cas pour revenir sur l'extrait que vous venez de nous présenter, les températures qu'on a observées en Inde ce mois de juin, qui ont atteint des records, hein, 51 degrés, d'après les scientifiques, c'est des températures que nous pourrions observer à Paris d'ici la fin du siècle. C'est des températures qui pourraient être complètement normal et faire partie de notre quotidien. Donc c'est vrai que quand on entend ce genre d'informations, quand on pense aux conditions dans lesquelles vont vivre aussi nos enfants, ça peut être source d'inquiétude, de tristesse, d'angoisse, de colère chez certaines personnes, effectivement.
Comment avez-vous rencontré ce phénomène en tant que médecin ?
Alors moi, je m'intéresse beaucoup aussi aux conséquences du réchauffement climatique sur la santé. Et donc, en faisant la littérature scientifique, une recherche dans la littérature scientifique, je me suis concentrée sur les conséquences psychologiques et psychiatriques du réchauffement climatique. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ce concept de solastalgie qui a été développé par nos amis australiens en 2007.
Alors, solastalgie, ça vient d'où, le mot ?
Donc, c'est un néologisme. Ça vient de solace, en anglais, qui signifie réconfort, ou solatium, en latin, et algie, qui veut dire douleur, en grec. Et donc, littéralement, c'est la perte de réconfort que certaines personnes peuvent ressentir.
D'accord. Alors, c'est vrai que depuis quelques mois, Juliette, l'éco-anxiété et la solastalgie sont partout, de plusieurs articles. Dans toutes sortes de médias, d'ailleurs.
Oui, comme vous disiez, le mot solastalgie et même l'éco-anxiété, ça existe depuis plusieurs années, mais le phénomène a fait un bond conséquent dans les médias ces derniers mois, particulièrement en France, où c'est apparu quand même à peu près au début d'année, au moment donc, de votre tribune dans La Croix, en janvier dernier. Et puis, dans les mois suivants, il y a eu en mars un long article de France Info sur la question. Il y a eu un autre article de Science et Avenir aussi. Il y a eu des articles de Marie-Claire et de Marianne en mai. Il y a eu, très récemment, l'un des derniers, c'est un article du Monde qui est paru le 21 juin dernier. Donc voilà, on brasse quand même un certain nombre de médias assez différents. Et à l'étranger aussi, les articles se sont pas mal multipliés, et les vidéos aussi. Et AJ France, qui est l'antenne française d'Al Jazeera, et Vice au Québec, ont rencontré des gens qui sont atteints d'éco-anxiété et qui racontent comment ils se sentent.
L'évidence scientifique, quand elle s'est imposée à moi de cette manière-là, ça m'a fait un véritable impact. C'est un sentiment un petit peu de désespoir, de tristesse, quand on est confronté dans la rue ou à une publicité ou quelque chose où on sait que ce mode de consommation impacte l'environnement, ça génère de l'anxiété.
J'ai lu le bouquin de Pablo Servigne, qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Je l'ai lu le 8 février, je me rappelle de la date, hein, parce que pour moi, il y a un avant et un après ce livre. En fait. J'ai eu une prise de conscience, mais c'est monumental quoi, ce qui s'est passé.
Dernièrement, cette semaine, je lisais beaucoup d'articles là-dessus, puis je regardais plein de vidéos sur l'environnement, puis ça me coupait la faim, j'avais presque plus le goût de manger.
C'est un état constant qui vraiment m'empêche d'avancer et à me projeter dans le futur.
Je pense à ce que je dois faire constamment. J'ai de la misère à dormir la nuit.
Let's say you're going to the grocery store and you want to get something, like you know you're going to use a plastic bag. Like that gives me anxiety. I'm like, I'm not using the plastic bag. I'm going to take all my things in my arms and bring them to the car.
I feel just uncomfortable and also like feel guilty.
Surtout quand je vois des gens de mon âge qui comprennent pas que c'est existentiel, ça me met hors de moi.
Alors, on est plusieurs dans l'équipe d'Arrêt sur Image à avoir découvert ce concept-là tout récemment, ces tout derniers jours, et on a tous eu la même réaction. Au fond, pourquoi pathologiser l'inquiétude face au chaos climatique ? Est-ce que c'est pas, au contraire, ceux qui ne ressentent aucune angoisse ou aucune anxiété qui devraient aller se faire examiner ?
Alors moi, je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je ne considère pas la solastalgie ou l'éco-anxiété comme une pathologie, plutôt comme un état d'esprit, comme une sensibilité au monde. Et les émotions négatives, en fait, ça fait partie de la vie. Donc la tristesse, la colère, l'inquiétude, c'est normal, ça fait partie de la vie. Ça peut par contre parfois déboucher sur des pathologies, hein, ça peut être un mode d'entrée dans une dépression. Donc ça, c'est peut-être le seul élément que l'on pourrait pathologiser. Mais en soi, pour moi, la solastalgie, l'éco-anxiété, c'est quelque chose de positif, puisque cette prise de conscience, elle peut permettre aussi d'être un levier pour l'action, un moteur pour le changement. Et comme vous le dites très bien, moi je considère que les personnes solastalgiques, ce sont finalement les personnes normales dans un monde qui, lui, par contre, est malade.
Cécile Duflo, vous aviez déjà croisé le concept auparavant ou vous l'avez découvert aussi là récemment ?
Non. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept, ça date un peu. Ça concernait exclusivement les climatologues, en fait, les scientifiques qui travaillaient sur le sujet et qui se cognaient contre le mur, d'abord des climatos pas sceptiques mais presque négationnistes, et puis aussi d'eux-mêmes en se disant mais c'est pas possible, enfin, vu tout ce qu'on découvre, comment ils se rendent pas compte ? Donc c'était une chose qui était au départ dans l'univers scientifique des climatologues. Ensuite, moi, je le vis, en fait. Je l'ai vécu, alors moi, je le transforme plutôt en colère, mais parce qu'en fait, je parle d'écologie, y compris chez vous et d'autres endroits, et dans le cadre de débats sur est-ce que le réchauffement climatique, c'est réel ou pas, j'ai commencé dans cette ambiance-là, et c'était en 2003. Et donc, comme je vois qu'il se passe aujourd'hui ce qu'on annonçait pour les générations futures, quand on a commencé à essayer de mobiliser sur le climat au début des années 2000, on parlait des conséquences sur les générations futures. C'est même plus les générations futures, ce sont nos générations, et c'est même plus 2050, c'est maintenant. Et donc je me dis, bah donc ce qu'on dit sur la manière dont les phénomènes peuvent s'interpénétrer, la fonte du pergélisol en Sibérie, etc., et tout ce que ça peut provoquer, je me dis, bah dis donc, si on avait raison sur tout ce qu'on a dit, et qu'on a encore raison, ouais, c'est quand même un peu compliqué. Mais l'élément positif, c'est que finalement, comme on a eu raison vite, d'une certaine manière, je veux dire, on, les écologistes, je me dis qu'il y a quand même une forme de réaction. À chaque fois, c'est drôle de regarder ça, je vois des éditorialistes, il y a Jean-Michel Apathy qui a fait un éditorial, moi je me souviens, j'ai été interviewée par lui, je pense que c'était au Grand Jury RTL, où il disait, mais bon, il y a quand même débat, enfin, tous ces gens que j'ai vus être des...
Alors, il a fait très récemment un édito sur Europe 1 où il a dit l'urgence, c'est la décroissance. Il a prononcé le mot décroissance.
Oui. Voilà. Faut s'imaginer, on était des zombies complètement archaïques, moqués. Enfin, j'ai l'impression d'être passé d'une sorte de micro-petit îlot au milieu d'un océan d'adversité à dire « je vous assure », et essayer de le dire poliment, de trouver toutes les manières, d'être un peu plus virulent, d'être un peu alarmiste, de ne pas l'être, de se dire « mais si on est trop alarmiste, les gens ne vont pas nous écouter ». Et puis tout d'un coup, toute la plaine a pris feu. Quoi. Voilà, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Mais…
– Mais alors du coup, c'est foutu ou on peut encore faire quelque chose ?–
C'est pas foutu, j'explique. Ce qui serait foutu, c'est, imaginons, il y a… toutes les centrales nucléaires de la Terre qui font ce qui s'est passé à Fukushima simultanément. Là, honnêtement, c'est foutu. C'est-à-dire que même en l'état actuel de la science, même en mobilisant tous les scientifiques de la planète, on ne sait pas supprimer la radioactivité. On le voit à Tchernobyl, on le voit à Fukushima. Donc ça, ou une bombe nucléaire. Là, en vrai, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution ni technique ni technologique. Là, le dérèglement climatique, et c'est pour ça que je ne suis ni dépressive, c'est qu'en fait, c'est techniquement, technologiquement, cognitivement accessible. Alors, j'ai lu ce que vous avez écrit sur est-ce que c'est cognitivement accessible, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à penser les limites avec notre stra, je ne sais plus quoi, à l'intérieur du cerveau.
Il va parler du stra, je ne sais plus quoi.
Là. Voilà, parce que moi, ça m'intéresse énormément cette question, parce que ça fait longtemps que je me dis, mais enfin, c'est quand même fou, des gens intelligents. Emmanuel Macron, par exemple, j'ai vraiment une anecdote avec lui, c'est que quand j'étais au gouvernement, il y avait un certain nombre de choses qui bloquaient. Et c'était visiblement pas le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint en charge de ces sujets, sur les questions d'écologie dont je n'avais pas en charge. Donc j'ai fouiné, j'ai essayé de comprendre. Et j'ai compris qu'il y avait un jeune homme très influent, très brillant, qui influait très négativement sur les arbitrages qui étaient pris au niveau de l'Élysée.
Sous le quinquennat François Hollande.
Au début, avant qu'il soit ministre, qu'on a oublié, il était membre du cabinet du président de la République.
On parle d'Emmanuel Macron.
Je parle d'Emmanuel Macron. Donc je l'ai invité à déjeuner pour parler avec lui, pour essayer de comprendre. Et je suis sortie soufflée. C'est-à-dire qu'il est plus jeune que moi. Et j'ai eu l'impression d'avoir face à moi mais quelqu'un de, je sais pas, daté de 20 ans avant dans la compréhension de ces sujets-là. D'ailleurs, il l'a dit très récemment, il a dit « j'ai changé il y a 6 mois ». Et ce qui me met en colère, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est que, et à la différence de tous les autres sujets, ce sujet-là, scientifiquement, il est documenté depuis très longtemps, enfin même depuis les années 70 en fait, hein. On sait la réalité scientifique. Et pourquoi cette question-là, on n'écoute pas les scientifiques? Ça viendra à l'idée de personne de ne pas écouter la manière dont la recherche en cancérologie a avancé pour soigner les cancers. On ne dira pas non, 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 non. Moi, je voudrais faire les trucs des années 60. Tout le monde dirait ça va pas bien. Ça ne viendrait pas à l'esprit quand on travaille sur la conquête spatiale ou sur les moteurs de dire non, 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 on va reprendre des moteurs de 1910. Et sur la science du climat, je ne sais pas. Et c'est comme si les gens ne lisaient pas ou n'acceptaient pas ce qu'ils lisaient. Parce que je disais souvent, ne me croyez pas, il ne s'agit pas de me croire d'être écologiste. Juste, il suffit d'avoir un cerveau et de lire. Et quand je disais ça, même il y a 4 ans, ça semblait presque provocateur. Maintenant,
Cécile Duflot, pourquoi on n'écoute pas les scientifiques? En fait, vous le savez très bien, on n'écoute pas les scientifiques sur cette question du climat parce qu'effectivement, si on les écoutait, ça remettrait en cause massivement les modes de vie, ce qui n'est pas la même chose que si on tient compte des dernières découvertes sur le cancer ou je ne sais quoi.
Sûrement. Le livre Père de la Terre est très intéressant parce qu'il montre l'énergie qu'ont déployé les lobbies du pétrole et du fossile pour contrer le travail scientifique des climatologues. Mais peut-être qu'il y a autre chose, c'est-à-dire que ça m'intéresse beaucoup ces réflexions sur la dimension psychique.
Alors on va y venir. Voilà,
parce que je me dis peut-être qu'il faut chercher aussi autre chose. Il n'y a pas que les lobbies, il y a aussi peut-être un truc qu'il faut débloquer quelque part dans notre façon de penser.
Alors on va y venir, on va parler du striatum. Hein. Vous allez nous expliquer, Sébastien, ce que c'est que le striatum. Auparavant, juste sur ce phénomène de l'éco-anxiété, de la solastalgie, vous avez une réaction?
Oui, moi j'en ai entendu parler depuis quelques mois. Je crois que c'est une réalité psychologique aussi pour le coup, parce que c'est quand même connu en psychologie depuis plusieurs décennies, les réactions de l'être humain face à deux types de situations, soit l'incertitude, et on a basculé dans un monde d'incertitude maximale, l'incertitude qui se traduit par des réactions d'anxiété. Tout le système nerveux se met en situation de tension, posture de tension, d'incertitude, donc d'anxiété, de stress profond.
L'incertitude étant matérialisée par la séquence qu'on vient de voir sur ces prévisions de 2050 qui voilà, tombent sur la tête en 2019. Voilà.
C'est-à-dire qu'on vit déjà dans un monde d'incertitude dans le domaine, que ce soit familial, privé, le monde du travail, toute la société a beaucoup accéléré, est devenue très labile. Et ça crée de l'anxiété. On le sait déjà, les troubles anxieux sont liés quand même à l'instabilité sociale. Maintenant, même ce qui était censé être le repère immuable quand même de nos existences, c'est-à-dire les saisons, la planète, la température, ça aussi, ça se dérobe sous nos pieds. Donc le contexte d'incertitude augmente, donc l'anxiété naturellement augmente. Et après, il y a l'autre volet qui est encore un cran au-delà, qui est la certitude du pire. Alors la certitude voilà, du pire, là, ça conduit, et on le sait depuis les travaux d'un psychologue qui s'appelait Martin Seligman, qui a découvert le concept de désespérance acquise. C'est-à-dire, vous mettez une souris dans un tube rempli d'eau, et puis elle se bat pour surnager, et puis au bout d'un moment, elle a compris que c'est foutu, qu'elle ne pourra jamais s'échapper. C'est ce qui pourrait arriver, là, dans l'hypothèse qu'on a évoquée. Et à ce moment-là, se met en branle d'autres systèmes neuro-endocrines qui conduisent à ce qu'on appelle la dépression, la résignation, on baisse les bras, on se laisse mourir. Donc on est un petit peu, l'éco-anxiété, on a vu dans ces extraits, c'est ces deux aspects-là, anxiété et parfois dépression. Donc je trouve qu'on est dans une espèce de tube à essai qui est la Terre, comme la souris, et il va falloir faire quelque chose. Et heureusement, il y a aussi ceux qui prennent la peur, y compris la peur panique, comme un ressort d'action. C'est la clé.
Alors, sur le « c'est foutu », sur le « c'est foutu » de la souris, le tout premier « c'est foutu » qui a inauguré, si j'ose dire, la saison des « c'est foutu », c'était à l'automne dernier.
C'était, oui, à la rentrée gouvernementale 2018, l'un des « c'est foutu » le plus marquant, c'est l'annonce fracassante de Nicolas Hulot, fin août, sur France Inter, que l'on peut écouter.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement.
Aujourd'hui.
Vous êtes sérieux, là ?
Oui, je suis sérieux.
Alors, c'est vrai que ça a été un électrochoc sur le moment, puis ensuite, on a un peu oublié. Et là, en y repensant ces jours-ci à propos du C'est foutu, je me disais, mais au fond, oui, cette prise de conscience, je veux dire, par le principal intéressé lui-même que le gouvernement et que l'État ne peut rien... je pense que c'est quelque chose qui a cheminé dans les consciences des Français depuis quelques mois et qui n'a pas disparu. Enfin, je ne sais pas si vous partagez ce...
Il y a plusieurs « c'est foutu » dans l'interview de Nicolas Hulot. Il y a « ça ne marche pas d'essayer de les convaincre et d'agir à l'intérieur, donc je pars ». Et il y a l'inquiétude de « est-ce que c'est encore possible ?» Parce que c'est ça, le discours de certains... le mot partisan n'est pas bon, mais en tout cas convaincu du risque d'effondrement, c'est dire tout est fichu. Moi, j'ai un vaccin qui s'appelle Yves Cochet. Yves Cochet a publié un livre en 2006 qui s'appelle « Pétrole Apocalypse ». Et à l'époque, il expliquait qu'on avait passé le pic de Uber et que, c'est, par exemple, le débat entre les écologistes à l'époque sur l'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2012 était nul et non avenu, puisqu'il n'y aurait pas de Jeux Olympiques puisqu'il n'y aurait plus d'avions en 2012. On est en 2019. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses justes dans ce qu'il écrivait. Mais en tout cas, quand on dit « tout va s'arrêter très vite » avec un scénario totalement catastrophe, finalement, il y a toujours des raisons d'espérer. Parce que je pense qu'on n'est pas comme des souris dans un tube, on voit des raisons d'espérer. Et il y en a, la capacité de résilience de la nature, les solutions technologiques. Donc...
Après, tout dépend de quel « c'est foutu » on parle, et c'est peut-être de ma
Exactement.
Faute si on est trop schématique depuis le début de cette émission, parce qu'il y a le « c'est foutu, on va tous mourir tout de suite », schéma explosion nucléaire, et il y a le « c'est foutu, les modèles vont s'effondrer, on n'aura plus d'électricité, les grandes voies de communication, on n'aura plus de TGV, enfin je veux dire, ce qui n'est pas le même « c'est foutu », ce qui veut dire notre modèle économique d'aujourd'hui est condamné à brève échéance, il faudra inventer autre chose.
Pour moi, j'ai deux raisons d'espérer. Un, je l'ai dit, les solutions technologiques, techniques existent. Enfin, un scénario France 100% renouvelable, et c'est là où ça peut mettre en colère. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce scénario qui avait été travaillé par l'ADEME et qui avait été caché sur instruction gouvernementale. Donc, les solutions, de trouver des solutions, ce que dit le GIEC dans son dernier rapport, c'est que oui, c'est très compliqué, mais ce n'est pas hors de portée. C'est ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que faire face à cette situation n'est pas hors de portée. C'est possible.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui. Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce qu'il va quand même falloir s'adapter ? Ça, c'est sûr. Parce que même si on peut éviter la grande catastrophe, il faut s'adapter. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que maintenant, on apprend comment on peut se rafraîchir en période de canicule. Et même maintenant, il y a des tas d'articles sur se rafraîchir sans clim. Parce qu'on a compris que la clim, en fait, ça provoque non seulement du réchauffement climatique, mais ça réchauffe même les villes de 1, 2 ou 3 degrés. Donc c'est une situation sans fin. Donc on commence à réfléchir à l'adaptation, c'est-à-dire notre capacité à vivre dans un univers qui n'a plus tout à fait les mêmes modes de fonctionnement et modes de régulation que celui qu'on avait précisé préalablement.
– Donc on a bien compris que vous n'êtes pas dans le « c'est foutu », vous êtes dans le « c'est très grave », mais c'est, on peut encore.
– Pas du tout, et surtout, voilà. Quand je vois, je pense que le « c'est foutu », donc je vais être même encore plus sévère, il arrange ceux qui ne veulent rien changer. C'est-à-dire que si une grande partie des écologistes bascule dans un discours, ce qu'il faut, c'est que vous vous entraîniez à produire vos tomates tout seul, que vous achetiez un petit bout de terrain dans la Creuse parce que tout est fini, finalement c'est très pratique. Pendant ce temps-là, le business continue. Si on s'attaque à la racine des difficultés, à des modifications politiques d'ampleur, et c'est pour ça, là, je vois qu'on commence à sortir d'un autre discours qui était l'inverse du « c'est foutu », qui était de dire non à l'écologie punitive. Ça, qu'est-ce que ça a pu mettre en colère ? C'est vraiment la pire formule et la plus désastreuse formule qui a été inventée et utilisée. Parce que ce n'est pas punitif, en fait. Ce qui est punitif, c'est ce qu'on vit. Ce qui est punitif, c'est d'être dans un climat. Et la contrainte, mais on vit tous avec la contrainte. On oblige tout le monde à mettre une ceinture de sécurité, et si vous ne la mettez pas, voilà, donc...
Je pense qu'on n'insiste pas là-dessus, parce qu'on est tous d'accord autour de ce plateau, et je pense que nos abonnés sont aussi d'accord, donc il vaut mieux...
Parce que ce n'est pas si évident de contrer l'argument de l'écologie punitive. Et je trouve que l'exemple de la ceinture de sécurité, je la retiendrai.
Oui, voilà. J'ai plus qui à France Inter, à qui on lui sortait cette histoire d'écologie punitive, a répondu on n'a pas le droit de fumer dans votre studio.
C'est François Ruffin.
C'était Ruffin.
Je l'avais trouvé excellent ce matin-là. Oui. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut contrer pied à pied maintenant. Et de dire. Enfin, il faut contrer tout ce discours qui avait un agenda politique. Parce que pendant longtemps, on a voulu, y compris, critiquer ou minabiliser ou ridiculiser les écologistes. Il y avait une volonté. C'est que tant que ce discours-là n'était pas entendu, il risquait pas d'un.
On est bien d'accord, c'est le flou. Cela dit, il me semble à moi que le débat n'est plus celui-là aujourd'hui. Le débat est entre le « c'est foutu » et le « on peut encore ». C'est-à-dire
le débat là, honnêtement, c'est la même chose. J'allais dire que les mêmes scientifiques qui parlent de l'alarme climatique disent que les choses ne sont pas irréversibles.
Mais juste pour redire sur ce « c'est foutu » ou pas, effectivement, le seuil des 2 degrés qu'on a défini dans les accords de Paris de 2015 comme le seuil à ne pas dépasser, il date il y a plus de 25 ans dans la littérature scientifique, il était déjà mentionné dans des papiers des années 90. Donc c'est vrai qu'il y a fallu quand même 25 ans pour que les politiques s'en emparent. Et en ce qui concerne le « c'est foutu », en fait, le pire scénario du GIEC, du rapport de l'année dernière, c'est le RCP 8.5. Et lui, en fait, il modélise des augmentations de température moyenne du climat qui pourraient dépasser les 5 degrés. Actuellement, c'est la pente qu'on est en train de suivre au niveau mondial avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est problématique. Mais ce n'est pas foutu puisqu'ils ont modélisé un autre scénario, c'est le RCP 2.6, qui lui prend en compte en fait les différents impacts des politiques positives pour le climat qui pourraient être menées si tout le monde le décide, si collectivement on décide de le faire. Et donc ça permet de limiter le réchauffement climatique parce que le réchauffement climatique, il a lieu, mais là depuis plus d'un siècle, la température au niveau mondial a augmenté d'un degré en moyenne. Ce qui est proposé avec ce RCP 2.6, c'est de limiter le réchauffement à pas plus de un petit peu moins de 2 degrés. Un petit peu plus de 2 degrés. Et pour ça, en fait, il faudrait réduire d'ici le milieu du siècle nos émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% pour atteindre des émissions négatives, des émissions nulles, voire même négatives, en développant des technologies de stockage du CO2 pour la fin du siècle. Donc ça, en fait, c'est possible. C'est vraiment important. Ça n'est pas foutu, mais ça dépend des choix que l'on va prendre à très court terme, collectivement.
De ce que vous venez de dire, je tire la conclusion que la spécialiste naissante de l'éco-anxiété que vous êtes, sans doute un peu éco-anxieuse elle-même d'ailleurs, considère pour autant que ce n'est pas foutu et qu'on peut encore...
C'est ce que disent les scientifiques et moi, je m'appuie sur la science.
et qu'on peut encore inverser le cours des choses. Alors, on va en venir maintenant à cette question de savoir ce qui, en nous, psychiquement, résiste effectivement au fait d'intégrer totalement ces informations alarmistes et au fait de consentir à changer nos modes de vie, en s'appuyant encore sur un autre passage marquant de la même émission de Nicolas Hulot.
Oui, donc au moment où, enfin juste avant que Nicolas Hulot annonce sa démission, on lui demande, enfin il exprime à quel point il lui paraît incroyable que les gens ne prennent pas conscience du danger, et on peut l'expliquer bien mieux que moi.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat ?
J'aurais une réponse qui est très brève. Non.
C'est impossible à expliquer.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil, et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire.
Alors, vous avez cherché dans votre champ d'investigation préféré, c'est-à-dire le cerveau, et qu'avez-vous trouvé ?
Eh bien, je suis parti exactement de cette interrogation-là, c'est quelque chose d'incompréhensible. Comment ça se fait qu'on ne se mobilise pas ? Moi aussi, au début, je me dis, je ne sais pas, ce n'est pas possible. Et comme disait Cécile Duflot, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très intelligents et qui n'arrivent pas à se mobiliser. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence, en fait, c'est une question de désir. Qu'est-ce qui fait qu'on peut savoir qu'on court à la catastrophe et continuer à le faire quand même ? Nous, les humains, on est habitués à se considérer comme au-dessus de tout, comme au-dessus de tous les règnes vivants, doués d'intelligence. On a tout créé, des cathédrales, des antibiotiques, des écrans à plasma. On est très intelligents, malgré tout, on continue. Alors, quand on regarde où la contradiction peut se situer dans le cerveau, ça devient déjà un peu plus clair. C'est-à-dire que ce qui produit notre intelligence, ce qui nous permet d'exploiter des champs pétroliers, ce qui nous permet de créer de construire des avions, des smartphones, tout ce que vous voulez, des habits de marque, et puis d'en produire en voiture, voilà, c'est notre cortex, c'est la partie extérieure du cerveau, qui est très développée chez Homo sapiens depuis quelques dizaines de milliers d'années, c'est dans la phase la plus récente de notre évolution. Donc ça, c'est ça qui nous crée finalement une technologie, une capacité de contrôler notre environnement. Mais nos désirs profonds, ils nous viennent d'une autre partie du cerveau qui est beaucoup plus profonde, qui est enfouie au cœur du cerveau, qui s'appelle le striatum. Donc. Et ce striatum, lui, il est apparu bien, bien avant. Ça fait des centaines de millions d'années que ça existe, cette chose-là. Vous voyez déjà chez des poissons du précambrien, des poissons fossiles, vous regardez une lamproie, par exemple, c'est quelque chose qui existait il y a 300 millions d'années, il y a déjà ce striatum.
Physiquement.
Oui,
physiquement,
oui,
c'est
oui,
un
après,
bout de cerveau.
Oui, oui. Voilà. Enfin, c'est une structure cérébrale au centre du cerveau et qui contrôle énormément de choses parce que, en fait, ça nous donne du plaisir chimique avec une molécule que beaucoup connaissent, qui s'appelle la dopamine, quand on fait certaines choses. Et donc, ça nous incite à agir de certaines façons grâce au plaisir qu'on en attend. Et quand on regarde dans quelles circonstances cette dopamine est relâchée dans notre cerveau, on voit que ça suit finalement les grands objectifs de survie au paléolithique, c'est-à-dire que c'est manger. Je crois que vous mangez, vous allez avoir ce striatum qui va vous donner de la dopamine. Ça va être se reproduire, donc avoir des relations sexuelles. À chaque fois, le striatum va nous donner de la dopamine. Ça va être avoir du statut social, s'élever par rapport aux autres dans la hiérarchie du groupe social où on vit. Toujours le striatum va donner. Et puis minimiser ses efforts, voilà, et acquérir un maximum d'informations sur son environnement. Parce que l'information, vous vous replacez au paléolithique, c'était la clé de la vie ou de la mort. Vous trouviez une petite empreinte de pas dans la boue séchée, ça pouvait être un prédateur qui vous dévore ou une proie que vous alliez avaler. Donc ce striatum est devenu très très sensible à l'information pour pouvoir manger. Ensuite, qu'est-ce qui se passait pendant 99% de notre existence sur Terre ? Quand on trouvait à manger, il fallait en manger le plus possible. Vous n'étiez pas sûr de retrouver une proie avant des semaines, avant des mois. Donc vous aviez de la dopamine à chaque fois que vous faisiez le plein. Donc il n'y avait pas de fonction stop à ce système. Dans les relations sexuelles, c'est pareil. Prenez la loi de la sélection naturelle. Vous avez intérêt à maximiser votre descendance, les copies d'ADN que vous faites de votre propre génome, donc le plus de relations sexuelles possible. Là encore, pas de fonction stop. Alors tout ça marche très bien dans un milieu pauvre, où il est difficile de survivre, qui a été celui qui a été le contexte de nos ancêtres pendant des centaines de milliers d'années. Donc tout ça s'est figé dans cette configuration-là, à cette époque-là. Alors après, le cortex s'est développé, puis il a créé plein de choses. Il a créé l'agriculture, l'élevage en batterie, l'agriculture industrielle, les pesticides, les engrais, les OGM, de sorte que les rendements de l'agriculture ont augmenté pour satisfaire, par exemple, le premier des besoins, manger. Mais ce besoin n'ayant pas de limitation au départ, il prend tout ce qu'il peut. Donc, il se gave, et puis aujourd'hui, on voit que l'obésité est en augmentation pratiquement dans toutes les régions du monde. qu'on meurt plus d'obésité et de surpoids aujourd'hui dans le monde que de la faim. Et que ça n'arrête pas. Et que l'agriculture, quoi, c'est quoi? C'est 20-25% des émissions de gaz à effet de serre. Et vous pouvez prendre dans ça chacun des grands programmes du Striatum. Le sexe, c'est pareil. Aujourd'hui, on a inventé Internet, les sites de rencontres, les sites pornographiques. Et donc, on clique pour regarder des vidéos pornographiques. On en regarde 136 milliards à l'année. Même aujourd'hui, l'humanité, et c'est 35% du trafic total d'Internet, dont les émissions ont dépassé aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre du trafic aérien.
Donc il y a ce striatum en nous qui, en gros, nous interdit de nous freiner dans toutes nos pulsions élémentaires.
Il n'est pas fait pour ça, non.
Voilà.
Non, il va dépousser le plus possible.
Et qui n'est contrebalancé par rien.
Non, il est contrebalancé par rien. Il est encouragé à aller toujours plus loin. Parce qu'on a créé un système de production qui a été conçu pour satisfaire ses besoins et non pas pour les contrebalancer. Donc on s'est pris à notre propre piège. Le piège dans lequel on est enfermé, c'est celui-là.
Et donc, moi qui aime trouver des solutions, je me dis comment on peut faire pour duper le striatum. C'est-à-dire pour trouver un nouveau système de satisfaction qui fait que ce système de satisfaction... Parce que je suis très sérieuse quand je dis qu'il faut trouver des solutions. Et y compris si le problème est un problème de conformation psychologique. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, je ne l'avais pas fait exprès, mais je parlais des gens qui étaient dans le RERD, qui n'est pas climatisé et souvent... Et je dis, on devrait dire merci aux gens qui sont dans ce RER, en fait. Et on devrait leur dire merci.
Enfin, aux Parisiens en général.
Oui,
non, je trouve qu'aux Parisiens en général, on subit des conditions de vie en fait, que je pense peu de personnes
pourraient trouver. J'ai la meilleure histoire qui soit sur cette question. Si vous avez entendu, du fait de la canicule, on a interdit le transport des animaux vivants. Mais les humains, on n'a pas interdit leur transport. Petit A, petit B, les normes européennes liées aux directives sur le bien-être animal n'interdisent pas de transporter des bœufs avec moins de tels... volume d'air, etc.
Attendez,
humains...
Je voudrais qu'on poursuive sur les solutions, parce que c'est intéressant, et sur votre idée de duper le striatum. Donc on remercie les gens qui acceptent d'être transportés...
C'est-à-dire qu'il faut que ces comportements-là, pendant longtemps, le discours sur les écolos, c'était de dire ça va être sinistre, vous allez mettre des chaussettes en laine et manger du quinoa. Et c'est vrai qu'il y avait chez certains écolos une simplicité volontaire qui allait de pair avec un côté pas hyper glamour ou pas brillant. Donc comment on fait pour retourner ça?
Alors, on les remercie de quelle manière?
Par exemple, nos consommations d'énergie. On ne les connaît pas. Vous savez combien vous consommez d'électricité? Non, c'est fabriqué pour gaspiller. Mais si jamais on arrive à avoir, j'en sais rien moi, une indication déjà pour pouvoir se gérer et être capable de dire « Ah ben moi, ce mois-ci, j'ai réussi à économiser tant de kilowattheures », vous êtes incapable de le dire. Et que ça devienne un marqueur social.
On met des plaques, le meilleur utilisateur d'électricité de l'immeuble, comme vient l'employé du mois dans les McDo.
Je suis totalement libérée de mon discours, je vais vous dire une expérience. Regardez, on remet des décorations. Qu'est-ce que c'est une décoration? Une légion d'honneur? C'est une petite cérémonie avec quelqu'un qui vous épingle une petite médaille. Ça, des gens se damneraient pour ça. Parce que l'avantage de ce truc-là, c'est qu'on est aussi très marrants, les humains. Les décorations, mieux que ça. Moi, je me souviens avoir remis des prix de l'éco-ville ou de je ne sais pas quoi. Les maires qui recevaient ce prix, ils venaient de l'autre bout, ça faisait un grand article dans le journal local, c'était un petit truc comme ça. En fait, on aime bien les gratifications, et donc il faut qu'on arrive à se dire, ceux et celles qui agissent en faveur de l'environnement, et je vais finir sur l'affaire du siècle, du coup, ils sont valorisés. C'est positif. Et à l'inverse, ceux qui sont responsables de la catastrophe, à un moment, il faudra qu'ils payent. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en cause, y compris personnellement. Parce que ce n'est pas un truc qui arrivait comme ça. Il y a des responsables, il y a des décisions qui sont prises à certains endroits, entre les mains de quelques-uns. Quand Monsanto fait son lobbying, ce n'est pas Monsanto. Il y a des gens derrière, des personnes qui décident d'utiliser les méthodes les plus crapoteuses pour aboutir à leur fin en connaissance de cause.
Bon, alors je vous écoute, j'enregistre, et de toute façon, on est tellement en quête de solutions que toutes les idées.
Trouver des nouvelles solutions.
A priori, sont bonnes à prendre. Après, on va vous dire.
Dites que ce n'est pas débile.
C'est pas Loufo, du tout. Ah. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, Cécile Duflo parle là du. Moi, j'ai parlé des principaux sources de motivation du striatum, j'ai parlé de la nourriture, du sexe, mais le troisième, et qui est peut-être encore plus grand, c'est le statut social, si je l'ai un petit peu évoqué. Le statut social, avoir du statut social, c'est pratiquement le premier désir des humains. Aujourd'hui, il passe par la domination, par le pouvoir, par l'argent, par la consommation, par les marques que vous portez, Et c'est uniquement pour avoir du statut social. Quand on achète une voiture suréquipée, c'est juste pour avoir une option un peu plus que le voisin. Quand on cherche des likes sur des réseaux sociaux, c'est pour avoir un peu plus.
Voilà. Donc mais on, si peut, vous donnez... on peut duper le striatum.
Mais oui, si, vous donnez du... si vous dites maintenant la norme, parce que c'est que des normes le statut social. La norme de statut social, c'est la consommation, les kilowattheures. Et c'est ça qui vous donnera une médaille. Là c'est le premier ressort à activer. Je l'explore d'ailleurs dans le bouquin, parce qu'on voit comment ça peut marcher au niveau même de nos neurones. Tout ça, ça part des études sur l'altruisme. On a constaté que vous donnez une somme d'argent à des personnes, des hommes ou des femmes, vous voyez que les hommes ont tendance à garder l'argent, et que là, il y a leur striatum qui leur donne de la dopamine. Ok, pas très surprenant. Mais vous faites pareil avec les femmes, vous avez une majorité de femmes qui préfèrent partager. Vous dites, tiens, les femmes ont du plaisir biochimique avec la dopamine quand elles partagent, comment c'est possible? C'est des hormones, c'est quoi? En fait, non, c'est que le statut social leur a été accordé dans leur éducation. On voit ça dans toutes les sociétés. Quand elles partagent, on leur dit bravo. Donc, petite médaille. Donc, ça veut dire que ça leur fait libérer de la dopamine dans le striatum et qu'après, ça continue. Mais si on fait pareil avec tout le monde, alors sans distinction aussi de classe, de pouvoir politique ou autre, pour tout le monde, on va mettre en prime time celui qui a économisé, celui qui a porté des petites chaussettes comme il faut. Et là, vous créez du statut social, une nouvelle norme sociale qui fait libérer de la dopamine en réponse à des comportements vertueux. Mais la norme sociale, ça veut dire...
Voilà. Vous dites en prime time, ça veut dire que les médias devraient avoir un rôle important dans ce domaine-là.
Ça a bien marché avec l'avion. Il y a eu beaucoup d'articles sur la honte de prendre l'avion.
Oui.
Et bien maintenant...
En Suède, et ça s'étend. Oui.
Ça va devenir chic de prendre le train. C'est-à-dire que de dire, les gens, ils n'oseront pas dire, quand ils seront allés à Toulouse, ils n'oseront pas dire qu'ils sont venus en avion.
C'est ce qui est en train de se passer, d'ailleurs. Il faut laisser faire la société là-dessus, ou l'État doit avoir un rôle ?
L'État a plusieurs... parce que si vous voulez prendre le train, mais qu'il n'y a pas de train, en fait, ça ne va pas marcher. Donc, il y a tout un tas de décisions favorables à un mode de développement plus sobre qui ne sont pas de votre ressort personnel. Mais moi, je suis très contente de vous entendre, parce que j'ai toujours été fascinée, je n'y connais rien, mais par la puissance du psychisme, à cause d'un sujet qui est notamment, ça n'a rien à voir avec la choucroute, qui est le déni de grossesse, c'est-à-dire cette capacité qu'a le cerveau d'imposer au corps de cacher une chose dont on se dit chacun que ce n'est pas possible. Et donc je suis sûre qu'on a en nous des mécanismes qu'il faut comprendre de manière très scientifique pour justement réussir à renverser ça. Et pour moi, un des éléments d'éclairage, c'est sur le déni. Je l'ai vécu à la crèche. Une maman arrivait tous les matins avec son gamin debout, de 18 mois, debout sur le siège passager, pas attaché. Et moi, ça me faisait un choc, mais j'osais rien dire. Et réunion parents, elle explique qu'elle trouve que la piscine à boules de la crèche a des angles trop aigus et que c'est un peu dangereux, peut-être faudrait faire quelque chose. Et là, ça s'est vu sur mon visage que je trouvais ça complètement dingue. Et donc, la psychologue de la crèche m'a vue et est venue me parler. Et je lui ai dit, mais écoutez, franchement, j'ai rien dit, mais c'est n'importe quoi. Tous les matins, elle vient avec son gamin debout, il risque 100 fois plus debout dans la voiture qu'avec la piscine à balles. Et elle m'a dit, c'est le déni. Et j'ai dit, comment ça, c'est le déni, c'est réel? Elle dit non, parce que attacher un enfant dans le siège auto, ça veut dire que vous savez que vous lui faites prendre un risque en conduisant. Le poser comme ça et démarrer, la mort n'existe pas, le risque n'existe pas. Et je pense que, justement, si on n'arrive pas à se poser ces questions-là et à travailler avec les scientifiques sur comment on renverse ce sujet-là, je pense qu'on aura du mal alors qu'on a les solutions techniques et technologiques.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque en explorant toute la partie scientifique du striatum, c'est ça ? Mm-hmm. Du striatum, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça conduise à déresponsabiliser des actions qui sont prises après d'un point de vue sociétal, politique et international ? Enfin,
c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, est-ce que c'est pas de notre faute, en fait, d'être des capitalistes qui détruisent toutes nos ressources, c'est mon striatum qui me dit de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi, la logique jusqu'au bout, en fait ?
En poussant les neurosciences, en survalorisant l'explication par les neurosciences, est-ce qu'il n'y a pas le risque de dépolitiser ? En gros, ce qui est peut-être une question qui s'adresse en priorité à la politique, d'ailleurs.
De toute façon, avant, ça l'était avec autre chose. On disait, c'est pas possible. Le discours après la négation, ça a été de dire, oui, ce serait pas mal, mais c'est pas possible. On peut pas y arriver. Vous voulez quoi ? Vous voulez... Donc ça a été ça, le discours. Donc maintenant, peut-être qu'il peut y avoir un autre discours. Mais la force de l'intelligence humaine, c'est qu'on n'aime pas être dominé par nos propres pulsions. Toute l'histoire, c'est justement d'avoir réussi à ne plus être dominé par ses pulsions. Donc personne ne dira « je suis désolé, je suis obligé d'être un pollueur, c'est à cause de mon striatum ». Je pense que ça, c'est pas dissible.
– Et quand vous savez que votre striatum, par exemple, que les neurones de votre striatum en veulent toujours plus, c'est quelque chose qu'on observe scientifiquement, c'est que vous donnez tous les jours la même satisfaction, tous les jours le même nombre de likes, par exemple, ou tous les jours le même salaire, ou tous les jours le même niveau d'équipement de votre voiture, ils s'habituent, ils vous donnent plus de dopamine. Donc, Le seul moyen, c'est d'augmenter les doses, si vous voulez de nouveau avoir de la dopamine. Donc quand vous savez qu'on est équipé de cette chose-là, qui en demande toujours plus, qui a un principe de croissance biochimique ancré dans notre cerveau, et que vous avez le choix après, vous dites, soit vous créez un système de production qui épouse cette dynamique, et donc un système de croissance sans limite, soit vous dites, on a une pulsion de croissance là-dedans, donc on a intérêt à créer un système politique et économique qui va contrebalancer ça. Donc la liberté, pour répondre à la question, elle est justement du côté de la politique et de la société. La société a un pouvoir sur notre striatum, ne serait-ce que par les normes dont on vient de parler. Et ça, simplement, c'est ne plus voiler la face. Savoir qu'on a un talon d'Achille et que notre liberté d'être humain, c'est d'en avoir conscience, de ne pas le nier et de faire ce qu'il faut pour que ça ne nous emmène pas à notre perte.
Et si je peux donner un exemple.
Alors, oui, Alice Desbiol.
Je voulais juste dire que peut-être pour nuancer, entre guillemets, parce que c'est vrai que votre ouvrage est particulièrement intéressant, mais c'est vrai qu'on a aussi en nous des mécanismes d'autorégulation, notamment pour vous prendre un exemple que je trouve intéressant, c'est celui de l'obésité dans votre ouvrage. Et c'est vrai qu'on a aussi des mécanismes de régulation de l'appétit. Donc on a des hormones qui sont sécrétées, la leptine, qui est l'hormone de la satiété, et qui est perturbée chez les obèses. Oui. Et il y a des causes aussi environnementales. Donc je pense que pour peut-être apporter un peu de nuance, on ne peut pas toujours, pour répondre aussi à votre question, tout faire reposer sur l'individu. Les perturbateurs endocriniens, typiquement, sont des causes très fortement suspectées d'obésité. Le marketing alimentaire. L'OMS recommande d'interdire le marketing alimentaire à l'attention des enfants, parce qu'on sait que c'est un facteur de risque d'obésité. Oui. Donc c'est vrai que je pense que... effectivement, il y a aussi des choix de société à faire et on a en nous des mécanismes d'autorégulation. Et on voit bien des personnes qui ont complètement accepté le réchauffement climatique, ses conséquences, et qui veulent s'atteler à la tâche.
– Oui, mais vous prenez l'exemple des mécanismes de satiété. Évidemment, ces mécanismes de satiété, ils ont besoin d'un peu de temps pour s'installer. On sait que c'est 15-20 minutes. Ouais. Donc quand on met en place un système qui insiste sur la vitesse, alors la vitesse dans l'alimentation, le fast-food, la vitesse de connexion aussi, on est habitué à avoir tout instantanément, on clique sur un bouton, on n'arrive plus à attendre. Donc on crée de l'impatience, ne serait-ce que par le tissu technologique qu'on s'est créé, on ne peut plus retrouver du temps long. Et quand on fait ça, à ce moment-là, tout ce qui est du ressort, de la profondeur du temps, de la conscience de ce qu'on fait, de la satiété, ce sont des ressources très précieuses qu'on a et qui nous ont aussi léguées par des centaines de milliers d'années d'évolution, ne peuvent pas rentrer sur scène. Donc la responsabilité, elle est aussi dans cette croissance de la vitesse. Tout va toujours plus vite et on n'a plus le temps de faire parler véritablement notre appareillage humain de base.
– Je voudrais revenir une seconde à la responsabilité des politiques. Dans l'affaire, vous nous racontiez votre rendez-vous avec Emmanuel Macron quand vous étiez ministre et qu'il était à l'Élysée. On a vu Nicolas Hulot tout à l'heure. Il y a une image qui est peu connue et qui est intéressante. C'est l'image d'un Facebook Live entre Hulot et Édouard Philippe, c'est ça ?
Effectivement, c'est à l'époque, donc Nicolas Hulot est encore ministre de l'écologie, et donc c'est un Facebook Live entre le Premier ministre et le ministre de l'écologie, où d'un coup, Édouard Philippe se met à parler effondrement.
Je termine sur cette question générale en forme de question philosophique par la référence à un livre que je cite souvent et que Nicolas aime bien, qui est « Effondrement » de Jared Diamond.
– Collapse.
– Collapse, en anglais, qui montre comment doivent être envisagées les questions d'accès aux ressources, d'environnement et de collaboration avec les sociétés qui nous entourent, lorsque ces questions-là deviennent prégnantes et arrivent à un point qui est tel que si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Et je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer ? C'est une question compliquée.
Il a fallu ce Facebook Live pour que je sache que vous aviez, monsieur le Premier ministre,
ça, lu. C'est parce que tu n'étais pas attentif, parce que je l'ai cité dans mon discours de politique générale.
Et c'est très intéressant parce que, en fait, ce livre essaye d'expliquer pourquoi un certain nombre de grandes civilisations ont disparu. Et le petit dénominateur commun, si je fais court, c'est la difficulté qu'ont eu ces peuples et ces civilisations à prendre en compte la limite des ressources dont ils disposaient.
Alors, on est toujours un peu dans la même réflexion. Pourquoi, même quand on comprend intellectuellement, on n'arrive pas à bouger ? Si je comprends bien, là, on est dans un cas de figure un peu différent du cas de Macron, puisque là, on a le cas d'un responsable politique qui, manifestement, est sensibilisé intellectuellement à la question de l'effondrement, qui lit des livres sur l'effondrement, et qui, pourtant, mène la même politique de petits pas écologiques qui est menée par tous les gouvernements qui se sont succédés depuis.
De micro-petits pas.
De micro-petits pas.
Le monde a analysé l'intégralité de la politique menée par le gouvernement. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, peu de traductions concrètes. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y en a un qui est le court terme. Et ça, il faut quand même l'admettre. Et donc, il faut réfléchir. Et c'est une de mes réflexions du moment. Comment on dépasse le court terme? Comment on sort les dirigeants politiques? Comment on leur donne la possibilité de prendre des décisions qui sont difficiles à court terme, mais qui sont nécessaires pour le moyen-long terme?
On fait comment?
Moi, je ne parle pas au nom d'Oxfam à cet instant, et d'ailleurs, je parle au nom de personne, mais maintenant, j'ai une réflexion, qui est qu'il faudrait qu'il y ait une forme de censure, et que cette censure pourrait être, tout le monde réfléchit sur l'évolution du Sénat. Je pense qu'il faudrait sans doute que le Sénat devienne une chambre où on ne fait qu'un seul mandat, assez long, et ensuite, c'est terminé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez été élu au Sénat, vous n'avez plus une possibilité d'avoir aucun mandat électif, donc vous êtes totalement libéré de cette pression-là, mais qui a la capacité, qui a comme unique fonction de pouvoir exercer un devoir de censure des propositions votées par le Parlement, si...
Au nom du long terme.
Au nom du long terme et au nom de la sauvegarde de l'humanité. Et donc c'est un coup près. Je me dis, il faut trouver une solution politique. Moi, mon sujet, c'est quand même tout le temps de trouver des solutions, et je pense que la solution est politique. La deuxième, c'est la question des lobbies, du financement de la vie politique, du lien entre la presse, les lobbies et les politiques, parce que un certain nombre de ces décisions, on le sait, elles sont fortement poussées et influencées par des gens qui vous disent que si vous n'allez pas dans leur sens, qui a un sens de court terme, vous le paierez cher. Donc ça, il faut quand même être lucide là-dessus. Et quand vous avez des journaux où il y a une page sur quatre qui est une publicité pour un SUV, vous imaginez bien que parler de la totale transformation des modes de transport, c'est compliqué.
– Alors, je voudrais prendre un exemple très concret de ce que vous dites. Donc, le même Édouard Philippe qui lit des livres sur l'effondrement, qui est vraiment sensible à la question, a été confronté, là, ces tout derniers jours, à une des, parmi les centaines, les milliers de questions concrètes concernant les émissions de CO2, la question des passoires thermiques, que vous, j'imagine, connaissez bien en tant qu'ancien ministre du logement. Donc, en gros, c'est comment faire pour accélérer le programme de rénovation des logements qui sont encore insuffisamment isolés et qui sont des passoires thermiques. Une idée avait été émise qui était au moment de la vente d'un logement concerné, c'est-à-dire d'un logement mal isolé, de consigner un petit pourcentage du montant de la vente, 5%, pour que ce pourcentage, je schématise beaucoup, pour que ces 5% soient utilisés pour rénover le logement en question. Alors je voudrais qu'on regarde juste comment à la fois les politiques et les journalistes, vous parliez des médias, ont accueilli cette suggestion.
Comment rénover les passoires thermiques? La chasse aux bonnes idées est lancée.
Les députés convergent actuellement sur une nouvelle taxe qui risque de faire bouillir les propriétaires.
Le principal amendement, c'est une sorte de taxe sur les logements courants d'air.
Alors ça irait jusqu'à 5% du montant de la vente quand même, c'est ce que prévoit en tout cas l'amendement qui a donc été déjà voté.
Le dispositif serait d'abord testé dans les zones tendues uniquement, mais il pourrait vite devenir une usine à gaz.
Mais au sujet des ventes, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que si vous avez un logement qui est classé F ou G, que vous êtes le vendeur, vous pouvez perdre jusqu'à 5% du prix de la vente. Donc en fait, globalement, si vous êtes le vendeur et que votre logement est pourri, c'est une forme de taxe, quoi qu'il arrive.
Cela risque en effet de freiner la rotation des logements. Les propriétaires pourraient rechigner à vendre ou bien augmenter encore plus les prix pour compenser la perte de 5% du produit de cession, sachant qu'il s'acquitte déjà de nombreuses taxes.
L'intervention du législateur avec ce projet est assez saugrenue parce que le vendeur d'un logement mal isolé, il est naturellement pénalisé pourvu que l'information de l'acheteur soit bien faite.
D'autant que, dans les faits, selon les professionnels de l'immobilier, eh bien, les appartements et maisons vendus aujourd'hui le sont entre 3 et 10% moins chers que quand il n'y a pas d'isolation.
Bon, alors du coup, autant vous dire que les propriétaires n'y voient là qu'une simple nouvelle taxe. Sur ces fameuses passoires thermiques. On va voir ce que ça va devenir, mais effectivement, c'est un petit peu lourd pour eux à encaisser, d'autant qu'en plus, c'est pas forcément simple quand on vient d'acheter un bien de mener ces travaux de rénovation énergétique.
Mais dites-moi, c'est une forme de séquestre. Et puis aujourd'hui, voilà, si un logement à vendre est en mauvais état, le prix négocié en tient toujours compte, non?
Oui, non, vous avez tout à fait raison. Mais j'allais dire, vous réfléchissez comme un acheteur normal.
Oui, excusez-moi.
Et pas comme un homme politique français.
Voilà, donc en gros, non mais ça c'est intéressant, c'est cette petite musique-là, parce qu'effectivement, elle n'est pas tonitruante, ça passe en douce, ça emprunte des arguments de bon sens qui sont, mais enfin, on va bloquer le marché de l'immobilier, les gens ne voudront plus vendre leurs appartements. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes médias qui, en gros, prennent conscience que le chaos climatique devient hors de contrôle. C'est l'extrait qu'on voyait au début de l'émission avec Gilles Boulot et Evelyne Delia, qui, à d'autres heures, nous explique qu'on ne peut rien faire parce que...
C'est quel bout du cerveau, ça ?
Parce que les agences, les propriétaires, etc., etc.
Non, on voit très bien la logique qui ressurgit en premier, c'est ce que ça coûte maintenant. C'est-à-dire qu'on parle d'enjeux qui vont devenir vraiment cruciaux dans 10, 20, 30 ans. Mais quand il s'agit de vendre sa maison, on se dit bah, « maintenant, je dois payer 5%. » Et là, on voit que notre cerveau est happé par l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui se rapporte…
– Moi, j'en sais rien. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les éditorialistes de la télé expliquent que ce que pensent les millions de propriétaires qui… Voilà, peut-être qu'il y a quand même des gens qui… Peut-être qu'on peut être à la fois propriétaire et maîtriser son striatum. Enfin, je...
D'abord, à moi, une des raisons de mon passage de la politique vers vers une ONG, vers la société civile, c'est de me dire qu'il faut faire mûrir les politiques. Honnêtement, à part quelques-uns, c'était vraiment c'est les moins écolos des écolos, on va dire, enfin de toute la France. Plus vous montez vers le sommet, que ce soit chez les hauts fonctionnaires ou chez les dirigeants politiques, bizarrement, c'est les moins sensibles.
Comment ça s'explique ?
J'ai des clés d'explication là-dessus, mais ce que je voudrais dire de plus intéressant, c'est que je pense que les gens sont beaucoup plus mûrs, beaucoup plus ouverts et beaucoup plus prêts à des changements en profondeur que ce que croient les politiques. Donc, je pense que c'est eux qui ont un biais cognitif. Je vais donner un exemple récent. Est-ce que vous pourriez remontrer tout ce qui a été dit avant le prélèvement à la source ? Ça allait être insupportable, un bazar innommable, les gens allaient hurler, etc. Il n'y a pas eu un problème, zéro. Et ça fait pourtant 25 ans que les politiques reculent à chaque fois avant de lancer cette réforme qui pourtant existe partout. Et sur ces questions environnementales, j'en ai des tonnes d'exemples. Vous savez, quand vous faites du café au lait, il y a des petites dosettes de lait. Et c'est vachement pratique. Vous avez juste la dosette de la bonne taille pour votre café. Parce que ça existe. Mais si ça n'existe pas, vous faites autrement. S'il n'y a pas de lingette, vous utilisez des chiffons. On n'utilise plus de chiffons. Mais ce n'est pas très compliqué d'utiliser un chiffon. Mais c'est vrai. Et pour le coup, ça, j'ai bien compris en lisant ça, on a du mal à se réfréner même quand on sait parce que c'est là. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Il ne faut plus que ce soit là. Deuxième exemple, très concret. La cigarette. C'est interdit de fumer dans les lieux publics. Bon, ça a été compliqué, mais c'est totalement admis. Mais maintenant, c'est presque interdit de fumer dans les lieux privés. Jamais vous allez allumer une cigarette dans le salon de quelqu'un sans lui demander son avis. Très rarement.
Oui,
bah, vraiment, où vous allez plutôt spontanément aller sur le balcon, sur la terrasse ou dehors. Et donc, il y a un effet prescriptif à la réglementation. Et enfin, pour revenir sur ce point, ce qu'on voit, et surtout, il y a la jeune femme, là, la journaliste, qui dit « taxe » avec le mot dont elle le dit. Alors, dès que vous avez dit « c'est une nouvelle taxe », ça y est, c'est terminé. Alors qu'en fait, il y en a plein, y compris parmi les lobbies, qui n'ont aucun problème avec d'autres taxes. Donc juste en résumé, l'action publique, c'est trois choses. C'est un, la réglementation, c'est permis ou c'est autorisé. C'est deux, la fiscalité. C'est-à-dire on utilise l'argent pour telle ou telle chose, on le prélève sur telle ou telle chose. Et trois, la commande publique, l'investissement. Donc il faut utiliser ces trois clés. Et pour revenir sur le débat sur les passoires thermiques, bien sûr qu'il ne faut pas juste interdire la vente des passoires thermiques. Il faut aussi financer les travaux, financer notamment les travaux pour les plus modestes. Et quand on l'a fait, ça marchait. Sauf qu'aujourd'hui, les budgets, et ça on pourra le remontrer, qui ont été annoncés et les budgets réellement consacrés à l'isolation des bâtiments n'ont rien à voir. Ils sont absolument en dessous de tout, alors que les gens sont globalement assez prêts et qu'en plus, ça fait de l'emploi. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures.
Donc, je vous écoute et je me dis, mais pourquoi elle a quitté la politique ? Non, mais parce que pour le coup, la politique, c'est foutu.
Non, pas du tout.
Pourquoi vous êtes partie ?
Parce que c'est moi. Parce que la politique, quand on l'a fait comme une écologiste que j'étais, enfin que je suis toujours, mais comme une écologiste femme de 30 ans, honnêtement, je m'en suis vraiment pris beaucoup. Et à un moment, j'ai eu ma dose. Je ne sais pas si c'est mon stratium ou je ne sais pas quoi, mon striatum qui a considéré que ça suffisait. Et par ailleurs, ça c'est personnel, par ailleurs, je pense qu'effectivement, il faut une pression citoyenne. Et qu'à partir du moment où il y a cette mobilisation au travers des ONG, quand il y a 2 millions de personnes qui signent la pétition de l'affaire du siècle, ça commence à activer quelques neurones chez certains dirigeants politiques. Parce que c'est un pourcentage...
– Vous en avez des signes ? Alors justement, bien sûr. C'est intéressant. –
Mais 2 millions de personnes sur 66 millions d'habitants, c'est pas un faible pourcentage. –
C'est énorme, est-ce que vous avez des signes du fait que ça commence à troubler un certain nombre de politiques ?
– Honnêtement, pour avoir... à une certaine période, essayer de faire parler des questions écolo. Si on y arrivait une fois par mois, c'était... ou tous les deux mois, c'était bien. Ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours désormais. Ce sujet-là est en permanence dans le débat public. Donc les choses ont quand même beaucoup changé.
Enfin, après, les résultats électoraux comptent aussi beaucoup. On est quelques jours après un scrutin européen où les écologistes ont fait un bon score. J'imagine que ça compte aussi.
Oui, en même temps, un bon score. Enfin, les écologistes, dans l'histoire, ont fait un meilleur score aux européennes. Et on fait un meilleur score aux européennes en 1900, en 2009. Et c'était moins rentré dans le débat collectif et dans le débat public. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus personne qui dit « Écoutez, l'écologie, ça commence à bien faire. » Ça n'est plus discible. Ça n'est plus discible.
Mais juste pour les passoires thermiques, je pense que ce qui peut un peu questionner, c'est que qui finalement vit dans une certaine précarité énergétique, c'est aussi les personnes qui ont moins d'argent. Et je pense que je sais pas, j'ai pas spécialement d'expérience dans la question, mais je suis pas certaine que ça soit, à mon sens, une approche très positive de l'écologie, puisque les passoires thermiques, pour avoir travaillé à l'hôpital, il y en a plein en fait aussi dans le domaine public, que ça soit les écoles, les crèches, les maternelles, les EHPAD, les hôpitaux, les urgences. Et du coup, je me dis, ça pose question. Enfin, si tous les établissements publics de Paris étaient équipés de clim au même niveau que le sont les grands magasins qui laissent au passage leurs portes ouvertes à l'époque où on parle justement de sobriété énergétique, ça augmenterait la température de Paris de 2 degrés. Donc moi, ça m'interroge en fait d'aller pénaliser encore.
Si j'ai bien compris, la rénovation des passoires thermiques, c'est pas d'y installer la clim,
on est d'accord. Non, bien sûr que non. Mais je me pose la question de l'ordre en fait dans lequel on fait ces mesures, parce que là, je trouve que j'ai l'impression que ça touche au niveau individuel les personnes. En plus, qui habitent dans des passoires thermiques, c'est les personnes déjà en précarité énergétique et qui n'ont pas forcément non plus beaucoup de moyens.
Et qui sont souvent locataires.
Bon,
c'est ça qu'il faut voir.
Oui, mais aussi des petits propriétaires qui sont dans des petites maisons, qui ne sont pas forcément.
Mais ça, vous êtes une financièrement, c'est pas très cher. Enfin, je veux dire, en proportion de ce qu'on dépense dans un certain nombre de choses, c'est aussi ça, c'est des choix. La politique, ce sont des choix. Ce que je voudrais dire à cet instant, c'est que là où vous avez raison, et pour moi, c'est aussi un chemin, et c'est pour ça que Oxfam lit clairement, est venu au combat contre le changement climatique par la pauvreté. Pourquoi ? Parce que la pauvreté, elle est accrue par le changement climatique. Ce sont les pauvres les moins responsables, ça vaut entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais ça vaut en France, ce sont les pauvres les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre et les plus victimes et les plus vulnérables. Ce sont effectivement eux qui vivent dans les passoires thermiques. Donc si on ne lit pas les deux combats, le combat contre les inégalités et la justice sociale et le combat contre la crise écologique, on ne s'en sort pas. D'ailleurs, on aboutit à la taxe carbone. C'est-à-dire que quand on a le sentiment que les réformes fiscales ont profité aux plus riches, mais qu'au motif de l'écologie, on prend à tout le monde et notamment aux plus pauvres, eh bien, on n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que les deux choses doivent être
sans
absolument mêlées.
Sans taxer les gros pollueurs.
Exactement.
Faire du monde, faire du moi, même combat.
Exactement. Hein,
voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure, en 2009, on pouvait se permettre de dire l'écologie, ça commence à bien faire, c'est plus possible. Alors, c'est vrai pour les politiques.
Et
d'une certaine, la citation de Sarkozy, je ne sais plus.
Oui, je crois que ça doit être 2011.
C'est cette période. D'une certaine façon, c'est aussi vrai pour les médias grand public, même si, comme on l'a vu sur telle ou telle décision, on a l'impression qu'il y a un court-circuit et qu'on oublie l'écologie. Mais exemple de cette sensibilisation croissante, une émission de cette semaine sur France 2, une émission d'enquête de cette semaine sur France 2.
Donc c'était le complément d'enquête diffusé le 20 juin sur la collapsologie. Et une des questions qui agite énormément, c'est de savoir si le monde s'effondrait, à quoi ça ressemblerait. Et du coup, complément d'enquête, c'est risquer un peu de fiction en imaginant comment on vivrait à Paris si toutes les ressources venaient à manquer.
C'est à nouveau plus de 700 réfugiés climatiques qui sont arrivés hier sur nos côtes. Ils fuient la sécheresse en Afrique.
Vous l'avez peut-être constaté ce matin, la capitale est affectée par une nouvelle coupure d'électricité. D'après les autorités, elle devrait durer au moins 72 heures. Nous vous rappelons que la coupure d'eau qui a débuté hier devrait, elle, se prolonger jusqu'à la fin de la semaine. Changement climatique, à Lacanau en Gironde, les derniers habitants du front de mer ont été évacués cette semaine. La fonte plus rapide que prévu de la calotte glaciaire du Groenland a en effet provoqué une montée extrêmement brutale des océans, submergeant des milliers d'habitations de notre littoral.
Sur le front de la sécurité, la nuit a encore été particulièrement meurtrière dans toute la France. À Paris, Lyon et Bordeaux notamment, on a dénombré de multiples pillages et affrontements armés, le plus souvent pour des denrées alimentaires. Un dépôt du ministère du ravitaillement a été pillé à Versailles. Le bilan provisoire dépasserait les 150 morts pour la seule nuit passée, ce qui porterait le nombre total de victimes depuis 6 mois à plus de 30 000.
Bon, on a donc là une mise en image par France 2 de l'adaptation, finalement. Alors, d'une manière sans doute un peu dramatisée, par exemple, par le choix des codes couleurs, toujours assez glauques et verdâtres, pour dépeindre ces scènes. C'est une bonne chose, c'est pédagogique, c'est utile de faire ce genre d'anticipation.
C'est à eux qu'il faut demander. Moi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Utiliser la peur pour... pour provoquer d'une part une prise de conscience et ensuite quelque chose derrière. Oui, bon, on a des données là-dessus. La peur peut fonctionner s'il y a un moyen d'action qui est donné en même temps. C'est-à-dire que si vous faites juste peur et que derrière vous ne donnez pas des pistes pour agir, c'est même le contraire qui peut se passer. Vous avez des conduites qui se disent bah, c'est foutu, donc je vais consommer encore plus, je vais profiter du temps qui me reste. Ça a été observé dans, par exemple dans des campagnes de prévention des accidents de la route. Les gens qui ont montré des spots trop effrayants avec aucune solution derrière, les gens ne réagissent pas pour la cigarette. C'était pareil à un moment. Donc il faut tout de suite dire voilà ce qu'il faut faire et voilà pourquoi c'est possible et voilà pourquoi c'est possible collectivement. C'est quelque chose qu'on n'a pas assez dit, c'est que par rapport au passeur thermique, si vous devez faire un sacrifice financier pour au moment de vendre votre maison et que vous êtes le seul à le faire parce que les autres ont des logements mieux équipés qui donc payent une taxe moindre, vous dites je suis plus mal loti, donc je fais un sacrifice plus important, donc je ne joue pas dans ce jeu collectif parce que l'être humain est ce qu'on appelle un coopérateur conditionnel. Il est prêt à faire des sacrifices si tout le monde les fait et s'il est averti de façon fiable que tout le monde les fait. Donc on fait peur, ok, mais derrière il faut dire il y a un système d'équité sociale parfaitement transparent avec une action collective qui va fonctionner ou qui va du moins limiter les dégâts. Il faut beaucoup de rationalité en fait.
Et pour rebondir là-dessus, effectivement, pour éviter l'effet de sidération de la peur, je pense que vous avez raison d'insister aussi sur les solutions, hein, pas que faire peur, il faut vraiment se projeter sur du positif, mais il faut bien rappeler que la peur, c'est aussi ce qui nous a maintenu en vie pendant des millénaires, c'est ce qui fait qu'on va fuir devant un danger, le vertige. Quand on s'approche du vide, c'est complètement physiologique.
Oui, c'est pour ça que Greta Thunberg...
Donc la peur est utile.
La peur est utile, c'est ce qui nous maintient en vie depuis des millénaires. Donc elle est nécessaire, en fait. Elle est nécessaire à notre survie.
Il y a trois réactions possibles. Soit la sidération, où on se fige, et là, c'est fini. Soit la fuite, soit le combat. Donc il faut savoir ensuite poser le curseur au bon endroit pour privilégier la solution combat.
Très bien, oui.
Je pense juste que quand ça passe sur France 2, c'est-à-dire pas sur des médias spécialisés sur les sujets, c'est-à-dire que ça s'ouvre à plein de gens qui ont pu échapper à ces réflexions-là, je pense qu'il y a un élément positif quand même. Ça manque de diffusion grand public de ces sujets, en sachant que pourtant il y a une appétence. Et effectivement, je pense qu'il faut à la fois... En fait, la question c'est est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il faut faire peur ? Parce qu'il y a un risque ? Oui. Et il est de plus en plus grand et, vous l'avez bien dit tout à l'heure, de plus en plus rapide. C'est-à-dire que les échéances se rapprochent. Et il n'est pas que pour la France, il est pour l'ensemble de la planète. Et personne ne peut s'en abstraire.
Et là, on ne fait pas peur, c'est une réalité scientifique, voilà, malheureusement.
Merci à tous les trois pour cette réflexion interdisciplinaire du bon usage de l'éco-anxiété. La principale suggestion que je retiens, c'est l'idée qu'il faut tenter de duper ce satané striatum.
Une autre chose, quoi. Une autre satisfaction, mettre en avant les solutions.
Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, si on est encore là.